Hello à tous, merci beaucoup de me retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Fit and Caliente dans lequel j'accueille Justine qui va nous parler d'un sujet un peu tabou encore, l'endométriose. Donc c'est une maladie dont on va vous parler toutes les deux après et on va aborder ce sujet surtout pour comprendre est-ce qu'il est possible déjà de continuer à vivre normalement, d'avoir une routine sportive, comment s'alimenter, etc. Parce que figurez-vous que cette maladie touche plus de une femme sur 10, c'est énorme. Donc peut-être que vous êtes concerné, peut-être que vous avez des amis concernés, donc ça pourrait peut-être vous aider à comprendre un petit peu mieux cette maladie. Et d'ailleurs, que ce soit cette maladie ou n'importe quelle autre maladie en général, je voulais quand même en parler aussi sur ce podcast parce que la vie n'est pas toujours toute rose. Parfois, on a des problèmes de santé et ça peut être très très impactant. Donc, je vous laisse avec l'épisode. Je vous souhaite une bonne écoute et n'hésitez pas à nous dire en fin d'épisode ce que vous en avez pensé. Bonjour Justine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast qui s'avère être un peu touchy. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter un petit peu, me raconter ton parcours brièvement ?
Oui, bien sûr. Déjà, merci à toi pour l'invitation. C'est super. pour faire un petit point, donc moi je m'appelle Justine, j'ai 25 ans. Donc toutes les deux, on a pas mal échangé donc sur Instagram. J'ai le compte French Légèreté. Et ce que je fais dans la vie, donc actuellement je suis en CAP esthétique et donc c'est une reconversion parce que moi pendant 8 ans j'ai travaillé dans le commerce et du coup là je suis en train de partir sur complètement autre chose mais...
Trop bien, c'est génial d'avoir eu le courage de le faire déjà, bravo à toi.
Ben, merci.
Est-ce que tu peux pour commencer nous raconter un peu ton rapport au sport et à ton corps depuis que tu es née et un peu grosso modo jusqu'à tu as eu un déclic ou voilà. Avant, comment c'était ?
Alors, mon rapport à mon corps, je pense que toute ma vie, il a été très compliqué. Très compliqué parce que, tout simplement, je suis une femme et je pense que ça joue aussi. Et simplement parce que quand on est enfant, on s'en rend pas trop compte, mais quand on grandit et qu'on devient adolescent, on a beaucoup de pression en fait. On se rend compte que il y a certaines normes que nous on se fait une certaine idée du corps qu'on devrait avoir quand notre corps est en train de changer. Et du coup, oui, un rapport assez compliqué parce que je pense que tout simplement, je me sentais pas assez comme les autres filles du collège où tu te fais un peu une idée de ce que tu vois dans les magazines, etc. Et ça m'a En fait, je me rends compte avec le recul que ça m'a vachement suivi et que ça a pu jouer du coup sur ce à quoi mon corps a ressemblé. C'est-à-dire que il y a eu des époques où j'ai été plutôt maigre et puis après j'ai eu des prises de poids excessives et que j'ai fait yo-yo pendant très longtemps et que en fait au final je me rends vraiment compte avec le recul que j'ai pas toujours eu un regard bienveillant avec mon corps, que je vais toujours trouver des défauts, que j'ai toujours trouvé qu'il n'était pas assez bien, pas conforme. On se met beaucoup de pression par rapport à ces normes qu'on se fixe. Alors bien sûr, les normes, celles-là, je l'ai mis entre guillemets, parce qu'en fait, on se rend compte en grandissant que les seules normes... En fait, il n'y a pas de normes, tout simplement. Donc, gros conflit. Et puis après, en fait, le fait de se juger autant... derrière tu maltraites ton corps quoi au niveau de la enfin que ce soit sur l'alimentation ou sur tes comportements excessifs que tu peux avoir notamment que moi j'ai pu avoir tu vois au niveau de la bouffe ou même après dans tes relations sociales ou même dans ta sexualité tu vois ça peut aussi beaucoup beaucoup jouer.
Ah ça c'est clair. Et d'ailleurs on n'en parle pas du tout assez niveau sexuel mais c'est clair que ta vision de ton propre corps doit forcément beaucoup jouer sur comment ça se passe avec ton partenaire, à vrai. Du coup, pas forcément facile au départ. Est-ce que tu faisais du sport, du coup ? Est-ce que tu as quand même essayé
Oui. Mais moi, j'ai fait de la danse pendant très longtemps quand j'étais jeune. Et puis, il y a même eu des périodes où j'allais à la salle quand j'avais quoi, 18, 19, 20 ans. C'était des périodes où j'allais beaucoup à la salle. Mais j'étais pas... Non, j'étais pas, même à cette époque-là, tu vois, j'étais pas encore en phase. Vraiment, je le faisais plus pour ressembler à, tu vois, un idéal que je m'étais fixé et que de toute façon, j'arrivais pas à atteindre parce que, parce que déjà, en fait, je connaissais pas suffisamment mon corps, que j'avais pas encore intégré le fait que mon corps était ce qu'il était et que même en essayant de le modifier, même en lui mettant la pression ou en faisant du sport à outrance, je faisais pas forcément les choses de la bonne manière. D'ailleurs, à cette époque-là, je m'alimentais tellement mal que de toute façon, j'allais pas pouvoir changer grand-chose. Je pense que dans tous les cas, à cette époque-là, peut-être tu te mets la pression, tout ça, et en fait, des fois, il suffit juste un peu de lâcher prise, et c'est là que tu vois des changements.
C'est sûr que c'est très très psychologique tout ça, je confirme clairement. Et du coup, est-ce que tu as eu un déclic à un moment donné ou pas? La réponse est oui.
La réponse est oui. Le déclic, il a été très brutal, même. En fait, je me suis pris une grosse claque dans la tronche. Parce qu'en fait, on m'a diagnostiqué de l'endométriose au début de l'année 2019.
Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est déjà?
L'endométriose, c'est une maladie chronique gynécologique, donc du coup qui ne touche que les femmes, et qui malheureusement n'est pas très connue, malgré le fait qu'elle touche plus d'une femme sur 10. Alors après, la complexité un peu de l'endométriose, c'est qu'il n'y en a pas une, mais il y en a plusieurs, c'est-à-dire qu'on dit souvent qu'il y a autant d'endométriose que de femmes, parce qu'on n'est pas toutes touchées de la même manière, pas au même endroit, pas au même stade, et on a des symptômes. Alors, il y a des symptômes, évidemment, qu'on va retrouver, mais qui ne vont pas être au même niveau, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui vivent avec de l'endométriose depuis des années, qui pour l'instant ne se sont pas rendues compte parce qu'elles n'avaient pas de symptômes, et pour d'autres, les symptômes, ils peuvent être complètement invalidants. Donc en fait, c'est ce qui va rendre compliqué la prise en charge, mais aussi le diagnostic, qui est d'une moyenne aujourd'hui de 7 ans, donc ce qui est quand même vachement long, tu vois, de vivre avec une maladie pendant 7 ans et de t'en rendre compte, d'apprendre ce que c'est qu'au bout de 7 ans, au bout de 7 ans de recherche et puis souvent de douleur, tu vois, plus d'une femme sur 10 qui est atteinte, parce qu'aujourd'hui, les chiffres, c'est une femme sur 10, mais en fait, une femme sur 10, c'est une femme sur 10 qui est diagnostiquée. La plupart, elles ne le sont pas. Donc, on sait qu'il y en a beaucoup plus. Et comme la plupart des maladies chroniques, malheureusement, il n'y a pas à ce jour de traitement curatif. On essaye de faire bouger les choses à notre petit niveau. Tu vois, il y a quand même pas mal d'associations qui vont nous soutenir. T'as EndoFrance, EndoMind. Bon, je te cite les deux plus connus. Et puis après, nous, on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux parce que le but, c'est de... c'est de casser un peu ce tabou là, tu vois, autour de cette maladie, de parler des symptômes, de dire que d'un côté, faut avouer que c'est pas normal d'avoir mal et faut reconnaître que quand une femme elle dit qu'elle a mal, c'est qu'elle a mal et c'est pas juste que c'est une chochotte. Et à côté de ça, de la déculpabiliser aussi, tu vois, parce que du coup, comme la plupart des maladies invisibles, du coup, il y a quelqu'un qui le sait quand elle a mal, tu vois.
Est-ce que tu peux juste développer les symptômes, du coup, rapidement, parce que mal, dans quelle situation?
Alors, les douleurs, très souvent, les gens disent, quand on a de l'endométriose, on a mal pendant les règles. Alors, c'est vrai, mais pas que. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as de l'endo, tu peux avoir mal pendant tes règles, mais tu peux aussi avoir mal en dehors. Tu peux avoir mal pendant tes rapports sexuels. Tu peux avoir mal quand tu vas aux toilettes. Et il y a aussi d'autres femmes qui ont mal 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Généralement, donc toi, t'as des douleurs qui sont continues et après t'as des crises.
C'est un mal de ventre ou est-ce que c'est un mal à l'intérieur?
Ouais, les douleurs, en fait, généralement, comme ça se passe surtout, enfin, ça commence à se passer au niveau de la zone pelvienne. Les douleurs sont pelviennes et après, généralement, ça remonte. Tu peux avoir mal aux intestins, tu peux avoir mal au niveau du rectum. Et après, après, en fait, il faut savoir que l'endométriose, c'est lorsque ton endomètre, qui est censé rester dans ton utérus, se développe en dehors de ton utérus. Il va avoir les mêmes propriétés que quand il est dans ton utérus. C'est-à-dire que pendant tout ton cycle, il va s'épaissir. Et au moment de tes règles, en fait, il va se mettre à saigner. Le problème, c'est que c'est ces cellules d'endomètre qui vont se déplacer, sortir de ton utérus et puis aller se poser un peu partout dans ton corps. Elles vont se poser sur des organes. Et en fait, c'est ce tissu-là qui peut être sur ta vessie, sur tes trompes, sur tes ovaires, sur ta paroi, la paroi de ton rectum. Donc ça va être sur l'utérus en fait, mais au niveau externe, elles peuvent aussi remonter sur l'intestin. Enfin, il y a des femmes qui ont de l'endométriose au niveau du cerveau. Donc on peut aussi comprendre que par exemple ces femmes-là, quand elles ont des crises d'endo, elles ont mal à la tête, par exemple. Tu vois. Et alors qu'à la base c'est un problème gynécologique. Je disais tout à l'heure que ce qui était compliqué, c'était que c'était une maladie invisible, mais c'est surtout qu'elle va avoir un très fort impact, en fait, sur ta vie, mais en fait, sur tes vies, j'ai envie de dire, parce que à côté de ça, bah, c'est ta vie sociale qui peut en prendre un coup, c'est-à-dire que, ouais, quand t'as une crise d'endo, bah, tu restes chez toi, tu restes couché, et ça peut être compliqué d'avoir une vie sociale quand t'en as à répétition. Ça va être la même chose pour ta vie sentimentale, surtout quand ça vient atteindre, justement, bah, ta vie sexuelle et que t'arrives plus à avoir de rapport. Ta vie familiale, forcément, parce que l'endométriose, bah, ça reste la première cause d'infertilité en France, aujourd'hui, il faut le savoir. Et ta vie professionnelle, bien évidemment, voilà, sur laquelle ça va avoir un impact aussi, tu vois, et même dans ton rapport, en fait, à toi-même, tu vois, en tant que femme, ton rapport à ton corps, ton rapport à ta féminité, du coup, bah, à la maternité aussi, hein, forcément, hein, ça va avoir un très gros impact. Et comme je disais, le problème aujourd'hui, c'est que c'est une maladie qui est taboue parce qu'elle est directement liée aux règles. Que le diagnostic et que le dépistage se fait pas automatiquement, hein, parce que en fait généralement ce qu'on dit c'est que l'endométriose, tu vois, c'est un cancer dont on ne meurt pas, et que bah, comme t'es une femme et si tu te plains de douleurs pendant tes règles, tout le monde va te dire mais c'est normal, alors que c'est une vraie maladie, faut le savoir. Enfin, tu vois, c'est voilà, et qu'aujourd'hui c'est 2 à 4 millions de Françaises touchées. Donc, il y a autant d'endo-girls que de gens qui ont le diabète, par exemple. Mais le diabète, enfin, tout le monde sait ce que c'est. Pareil, je le mets entre guillemets parce que tout le monde ne sait pas exactement ce que c'est, mais tout le monde a déjà entendu ce mot-là, le mot endométriose. Il y a plein de gens qui n'ont jamais entendu parler. Jamais. Et c'est ça qui est compliqué, tu vois, aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on veut vraiment faire entendre notre voix. Et c'est le but, en fait, pour nous, tu vois, de vraiment... déjà d'en parler pour se soutenir les unes les autres, et puis dans un but d'information et de prévention également, tu vois.
Ouais, c'est clair, mais dans un but d'information pour vous et pour les autres, parce que franchement, si c'est pour vivre avec une maladie donc invisible qui t'impacte mais que les gens ne comprennent pas, et du coup ils te jugent parce que bah, voilà, t'es fatigué au boulot, tu peux pas venir bosser parce que t'as mal au ventre, ou genre tu dis que t'as mal au ventre et que tu peux pas sortir, les gens croient que c'est une excuse, etc. Donc c'est super chiant parce que t'es toujours jugé, alors qu'en vrai c'est une douleur apparemment insoutenable, quoi.
Complètement. Une crise d'endo, elle peut arriver n'importe quand. Elle peut arriver quand t'es au volant, elle peut arriver quand t'es en train de faire tes courses, elle peut arriver quand t'es en train de dormir. Ça prévient pas, en fait. Ça arrive d'un coup et peu importe ce que t'es en train de faire, et t'es obligé parfois même d'arrêter ce que t'es en train de faire. Donc, faut le savoir, faut essayer de trouver des petites astuces.
Ouais, bah oui, bah j'imagine bien, parce que ça, c'est genre vraiment tous les mois et c'est quasiment tous les jours du mois, quoi, donc compliqué. Et du coup, ça a été un déclic dans le sens où tu t'es dit, ok, en fait, ma santé est précieuse et il faut que j'arrive à arrêter de faire n'importe quoi et à en prendre soin. Ou dans quel sens ça a été un déclic pour toi ?
Moi, ce qu'on m'a dit tout de suite, c'est bon, de toute façon, vous avez de l'endométriose, ok, il n'y a pas de traitement curatif. J'ai dit, ouais, ok, du coup, je fais quoi ? Enfin, tu sais, on va faire comment maintenant ? Et en fait, généralement, donc la première chose qu'on te propose, ça va être de stopper tes règles. Donc avec une pilule, ou si c'est pas suffisant, avec une ménopause artificielle, donc un traitement hormonal qui est beaucoup beaucoup plus fort. Il faut le savoir, par contre, il y a beaucoup d'effets secondaires. Donc ça, ou après tu peux te faire opérer, donc on va venir enlever justement le tissu qui s'est créé. En fait, le problème, c'est que tant que tu as tes règles, il y a création d'endomètre, et du coup, il y a de l'endomètre qui vient, enfin, il y a l'endométriose peut se développer. Tu vois. Alors après, quand tu es diagnostiqué, tu peux être diagnostiqué à n'importe quel stade. Voilà, il se peut que tu aies de l'endométriose depuis des années et des années, et que bah, par exemple, tu n'aies jamais eu mal. Alors ouais, il y a aussi ça. C'est que moi, par exemple, quand on m'a diagnostiqué, j'étais au premier stade, et pourtant, j'avais des douleurs abominables. Et pourtant, il y a des femmes qui sont au stade 3, 4, et qui ont moins mal, en fait. Mais c'est pas qu'on n'est pas égal face à la gestion de notre douleur. C'est que la douleur peut être différente selon les femmes.
En fait, vous êtes différente par rapport à la maladie, tout simplement. En fait, il y a des gens qui ont des cancers, ils ont hyper mal. Il y en a d'autres qui ont rien, mais qui se réveillent genre le jour où c'est terminé. Enfin, tu vois.
Ouais, mais complètement. Complètement. Et moi, mon déclic, ça a été de me dire bon, bah, ok, du coup, on ne peut rien faire pour moi, donc on va me donner une pilule, alors qu'à la base, bon, je fais une aparté, hein, mais je suis complètement contre la pilule, les hormones et tout. Je trouve qu'on prend déjà assez de merde dans nos vies. Et là, on m'a dit bon, bah, tu vas reprendre une pilule avec des hormones, mais c'est le seul truc qui peut éviter que ça se développe. J'ai dit bon, ok, donnez-moi tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Et à côté, bah, tu te dis bah ouais, qu'est-ce que je peux faire moi de mon côté, tu vois, pour améliorer mon quotidien, pour anticiper ces crises. Alors, en fait, j'ai pris conscience d'une chose, c'est que t'as plusieurs plans. C'est comme si tu faisais un triangle, tu vois. Sur chaque côté, donc t'as ce qui est psychique. Donc, tout ce qui va être lié aux contrariétés, au stress, aux anxiétés, à la fatigue, tout ce qui va être les pressions sociales, familiales, professionnelles, sentimentales, etc. Moi, par exemple, je me suis aperçue que plus j'étais fatiguée, plus j'étais stressée, ou dès que j'étais contrariée, que je venais de me disputer, par exemple, avec quelqu'un, paf, derrière, j'avais une crise, tu vois. Et plus j'étais dans cet état-là, plus j'avais de crise. Donc du coup je me suis dit bon, sur ce point là va peut-être falloir que je fasse quelque chose, forcément, donc du coup qui va avoir un impact sur la deuxième partie, donc qui est la partie physique. Donc pareil, hein, forcément, si t'es fatiguée, t'es stressée, tu vas être comment, tu vas avoir des contractures, tu vas être mal, tu vas mal te tenir, etc. Et ça peut avoir aussi un impact sur tes douleurs, forcément, si t'es pliée toute la journée. Mais bon, d'un autre côté, c'est la douleur qui te plie. Donc, tu vois, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Face au troisième point, qui est le point chimique. Donc, en fait, c'est ta consommation globale, ton alimentation, ce que tu vas pouvoir consommer, manger, boire, tout ce qui est perturbateur endocrinien, par exemple. Tu vois, et après, il faut savoir que ta maladie, là, du coup, c'est une inflammation. Du coup, plus tu vas consommer des choses inflammatoires, pire ça va être. Donc tout ce qui est alcool et viande rouge, par exemple, je dis pas que c'est à proscrire, je vais pas arrêter de boire de l'alcool, mais je continue un petit peu, mais voilà, je sais que si je passe une très très bonne soirée et que je me prends une grosse cuite, je sais que le lendemain j'aurai très mal au ventre. Des fois on le fait quand même, mais voilà, faut en prendre conscience. Y aller à son rythme, pas culpabiliser, pas se mettre la pression. Du coup, j'ai été diagnostiquée au mois de mars. Un mois plus tard, j'ai arrêté de travailler. Puis vis-à-vis de mon corps aussi, tu vois, de me rendre compte que ouais, pendant toutes ces années, tu vois, je m'étais un peu battue, en gros, contre lui, alors que lui, il essayait de se défendre contre quelque chose qui était à l'intérieur de mon corps. Et que, ouais, certes, j'avais eu des symptômes, mais la plupart, je les avais ignorés.
En fait, lui se battait pour toi et toi, tu te battais contre lui.
Bah ouais, clairement. Et en fait, j'étais complètement dans l'ignorance de ce qu'il était en train de vivre. Et d'un coup, tu vois, je me pose, je me dis, ouais, ok, je suis malade, ok, il n'y a pas de traitement. Moi, de mon côté, je peux peut-être faire je peux peut-être mettre des choses en place. Ben, go. Vraiment, la première chose que j'ai fait, et c'était pas la plus facile, ça a été de lui demander pardon. Alors, c'était la première fois que je parlais à mon corps. Hein. C'est très bizarre. Et de simplement lui dire, ben voilà, tu sais quoi, putain, tu tiens bon. Depuis tout ce temps, tu tiens bon, parce que du coup, bah, on ne sait pas depuis quand je suis malade, hein, je ne le saurai jamais. Et tu vois, de me poser, de me dire, bon, je suis quand même fière de toi, tu vois, ça va. C'est-à-dire que tu arrives à peu près à gérer, ce n'est pas encore catastrophique. En fait, j'ai été diagnostiquée à la base à la suite d'une rupture de kyste ovarien. Et là, c'était abominable, hein, je ne pouvais plus marcher, tellement j'avais mal. On s'est rendu compte que j'avais eu une rupture de kyste, mais derrière, j'ai continué à avoir mal au ventre. J'ai dû me battre contre les médecins pour qu'il continue de chercher. Tu vois, même avec tout ça, une fois que je me suis posée, que j'ai... En fait, j'ai tout lâché. J'ai tout lâché, j'ai lâché mon boulot, j'ai lâché mon appart, j'ai lâché ma vie sociale, je suis retournée aux sources, je suis retournée, genre, vivre chez mon père. Et je me suis dit, tu retournes à la campagne, tu vois, tu vas manger bio, tu vas respirer du bon air. Tu vois, j'avais vraiment besoin de penser plus sain. Et ça m'a permis, justement, tu vois... de me reconnecter à mon corps, et aujourd'hui je ressens beaucoup plus les choses, tu vois, et donc c'est ça qui me permet d'anticiper les crises, c'est que le fait d'être plus en face avec lui Et le fait aussi de décider que j'allais plus me battre contre lui, mais avec lui, que dans ce qu'il était en train de vivre, j'allais le respecter et l'accompagner et qu'on allait mener cette aventure ensemble, et ben finalement, je me suis rendu compte qu'il me le rendait bien. T'as ce regard que tu portes à ton corps. Moi, au début, quand je me suis mise à avoir mes crises constamment, que je savais plus du tout quand j'avais faim, quand j'avais plus faim, enfin, du coup, c'était une époque où aussi je mangeais pas très bien, j'ai pris du poids, quand j'avais mes crises, j'avais des ballonnements, j'avais le ventre gonflé. Franchement, une femme qui a une crise d'endométriose, tu crois qu'elle est enceinte, hein. Et du coup, en plus, c'est horrible parce que c'est quand même la première cause d'infertilité en France. Et moi, on m'a déjà demandé, ah, ben, du coup, c'est... non, ta gueule. Pas la question à me poser, vraiment, c'est pas le moment. Bon, après, voilà, les gens peuvent pas savoir non plus. Et ouais, il m'a fallu cette pause où, tu vois, j'ai fui vraiment. On peut pas non plus reprocher aux gens qui nous entourent de pas nous comprendre parce qu'ils vivent pas forcément la même chose. Et à côté de ça, je suis quand même hyper contente d'avoir eu Instagram à ce moment-là, tu vois. Enfin, je l'avais depuis un bon moment, mais je pense que c'est à ce moment-là que je me suis vraiment dit que une communauté Insta, ça servait à beaucoup plus que, tu vois, des likes sur des photos, etc. Parce que du coup, j'ai pu rencontrer beaucoup d'endo girls sur Insta et que ça m'a aidée.
En gros, t'étais pas du tout en train de... Ben, tu prenais pas soin de toi plus que ça, jusqu'à ce qu'on te dise « Coucou, en fait, là, va falloir prendre soin de toi ». C'était comme un signe un peu de peut-être un coup de pied aux fesses, hein, au final. Et finalement, même si cette maladie, oui, elle a plein d'inconvénients horribles et plein de trucs chiants, et ben, je me dis, en fait, du coup, elle t'a permis de... Bah, elle t'a offert un des plus beaux cadeaux qui est de prendre soin de toi maintenant, quoi. Donc, au final, un mal pour un bien, je dirais peut-être pas ça, parce qu'on aurait pu s'en passer, quoi. Mais en tout cas, c'est quand même un truc positif.
Ouais, et tu vois, c'est à la suite de ça, après, que je me suis dit, bon, voilà, on fait les choses petit à petit, tu modifies ton alimentation... à ce moment-là, donc j'ai commencé le yoga, et puis petit à petit, tu vois, j'allais mieux physiquement, j'allais mieux psychologiquement, et j'ai réussi à me détacher un petit peu. Et ça, c'était nécessaire aussi parce que d'un coup, il y avait plus que ça qui orchestrait ma vie, et j'étais plus que ça. Alors qu'en réalité, je suis plus que ça. Tu vois, je suis pas juste une endo-girl, je suis pas juste une malade. Non, je suis une fan. Tellement plus que ça. Les fois où j'étais très très fière d'aller au yoga, et puis il y a des jours où j'ai pas pu y aller, mais c'est pas grave, je suis pas culpabilisée, je me suis foutue sur mon canapé, j'ai regardé Netflix, c'était une très bonne journée, et je pense que c'est important aussi, tu vois. C'est ça, en fait, la complexité, je pense. C'est que t'as deux chemins. C'est que d'un côté, tu te dis, voilà, j'ai le droit de me plaindre, j'ai le droit d'être triste, j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit d'avoir mal, personne n'a sous-estimé ce que je vis. Et d'un autre côté, c'est aussi bien de relativiser. Parce que, ok, ouais, il y a toujours pire, il y a toujours plus grave. La plus belle leçon, c'est de se dire que même si cette maladie, elle te retire beaucoup de choses, qu'elle te retire beaucoup de rêves et qu'elle te retire beaucoup de moments au quotidien, il faut juste prendre conscience de ce qu'elle te laisse et en profiter pleinement. Et à ce moment-là, je pense qu'on se rend compte aussi qu'elle nous apporte beaucoup. Tu vois, dans toute cette prise de conscience, dans ton rapport à toi-même, dans ton rapport aux autres. Et puis après, tu as tout ce qu'il y a autour. Tu as les rencontres que tu vas faire, les échanges que tu vas pouvoir avoir avec les autres. Et ça, c'est hyper positif. Jamais j'aurais imaginé quand, au mois de mars, rien que de marcher 15 minutes autour de chez moi, c'était le bout du monde, mais je le faisais parce que, putain, fallait que je sorte et que fallait que je respire, et qu'en plus de ça, de marcher, ça me faisait vachement de bien. J'aurais jamais imaginé qu'aujourd'hui, ouais, parce que du coup, j'en suis quand même à la semaine 12 du TBC.
Ouais, bravo.
Toujours délicat de parler de sport quand on parle de maladies chroniques, surtout quand elles ont des symptômes invalidants, parce que les endo-girls ne peuvent pas toutes faire du sport. T'en as qui arrivent à faire du sport à haut niveau, et t'en as d'autres, comme je disais, en fait, c'est pas qu'elles peuvent pas se le permettre, c'est que leur corps ne leur permet pas. Et ben, profites-en, fais-le à fond, et kiffe, tu vois, juste prends du plaisir dans ce que tu peux faire. Pour en revenir à mon expérience, tu vois, du coup, j'ai commencé le TBC cet été. À partir du moment où j'ai commencé à voir des résultats, ouais, il y a eu des séances où, franchement, j'en ai chié. de sentir que je reprenais le contrôle sur mon corps, que je reprenais une forme physique, de retrouver mon corps et de le voir se transformer et d'aller chercher mes limites, ça m'a fait vachement de bien. Et ouais, je parle d'un programme qui est intense, mais même si d'aller chercher tes limites, ça implique de marcher 10 minutes dans la journée, bah, tu sais quoi, le jour où tu te sens de le faire, fais-le. Fais-le parce que ça va te faire un bien fou. Et derrière, tu pourras remercier ton corps de t'avoir permis ça aujourd'hui, enfin ce jour-là, tu vois. Même si derrière, pendant une semaine, tu ne pourras pas le faire. Ouais, je regarde le verre plein aujourd'hui.
Ça, ce serait le conseil que tu donnerais au niveau, enfin, au niveau sport et au niveau vie de tous les jours. Est-ce que tu aurais aussi des conseils niveau alimentation, des trucs, des aliments qui sont pas trop mauvais? Typiquement, tu disais tout à l'heure pas trop d'alcool et pas trop de viande rouge. Est-ce qu'il y a des aliments qui sont peut-être apaisants, enfin, ou moins inflammatoires?
Il y a vraiment des aliments qui vont t'aider. Oui, certainement. Mais il y a surtout des aliments à éviter, je pense. C'est tout ce qui est, comme je disais, tout ce qui est inflammatoire. Après, je sais que de mon côté, par exemple, j'ai aussi arrêté le lait de vache. Ça te permet de découvrir d'autres saveurs. Tout ce qui est industriel, tout ce qui est déjà préparé, ça, dans tous les cas, mais malade ou pas malade, de toute façon, on sait que c'est pas bon pour notre corps. Donc ouais, moi, le seul conseil que je pourrais donner, c'est mange aussi ce qui te fait plaisir. Alors, ce qui te fait plaisir, si c'est de manger McDo 3 fois par jour, non. Mais tu verras que si tu commences à manger sainement, équilibré, tu vas aussi prendre du plaisir et que ce sera mieux pour ton corps. Je pense qu'on sait de toute façon quand on mange quelque chose, si ça craint ou pas pour nous.
C'est juste du bon sens, en fait, finalement.
Je pense que quand t'es en face d'un aliment, faut aussi, tu vois, te demander est-ce qu'il va faire du bien à mon corps. Petit à petit, tu t'éloignes de ce qui est néfaste, de ce qui est de toxique. On sait tous que les fast-foods, que les trucs préparés, que voilà, on sait que c'est pas bon pour nous. Mon conseil, du coup, pour celles qui nous écoutent, pour celles qui viennent d'être diagnostiquées ou celles qui le sont depuis un bon moment, déjà, on vous croit. On vous croit quand vous dites que vous avez mal. C'est OK de pas être OK. Profitez de tout ce qui vous reste. On peut avoir l'impression que c'est un peu le bout, que c'est un peu la fin. Et en fait, c'est le début de quelque chose d'autre.
D'accord. C'est un message trop, trop cool. Et je pense que du coup, en note de l'épisode, bon, évidemment, je mettrai ton compte Insta pour celles qui veulent te suivre ou même te parler de cet épisode. Et aussi, si jamais tu as cité donc deux associations tout à l'heure, donc peut-être que je les mettrai aussi. Ça peut toujours aider peut-être celles qui sont concernées et qui n'osent pas ou qui ne savent pas trop. Ou voilà. Mais super message en tout cas.
Je disais pour celles qui veulent plus d'informations, tout simplement, parfois sur... Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait, par exemple, sur Instagram. C'est qu'à partir du moment où j'en avais marre de lire tout et n'importe quoi sur les forums, sur Internet, eh ben, j'ai tapé hashtag endométriose, en fait. Et là, en fait, tu vas retrouver plein, plein, plein d'endo-girls. C'est bien, justement, d'avoir cette communauté-là. Et juste, en fait, on est là et on est OK pour en parler. Et il n'y a pas de souci.
Clairement. Puis les réseaux sociaux, c'est surtout fait pour ça, à la base. Enfin... C'est quand même pour sociabiliser et se rapprocher des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous, donc, et même les mêmes problèmes d'ailleurs aussi. Mais trop bien. Franchement, en tout cas, merci beaucoup encore une fois, parce que je pense que ça va aider beaucoup de femmes. Et c'est cool aussi d'avoir un peu levé le tabou sur ce sujet qui, oui, paraît un peu touchy, parce que oui, ça a rapport avec la féminité, donc c'est forcément un peu touchy. Mais en tout cas, c'est vraiment cool que tu aies pu en parler aussi ouvertement. Je pense que ça va vraiment soulager plein de filles, femmes. Donc encore une fois, un énorme merci.
Ben, j'espère. Ben, je t'en prie. Et merci encore à toi pour m'avoir invitée. Et puis voilà, d'être aussi, tu vois, ouverte justement sur ce sujet et de m'avoir permis justement d'en parler et de témoigner. Les maladies, il y en a plein, plein, plein d'autres. Hein. Il n'y a pas juste l'endométriose, malheureusement. Je pense que le plus gros message, c'est quoi qu'il en soit, tu vas à ton rythme, culpabilise pas, te mets pas la pression, prends du plaisir dans tout ce que tu fais, sois fier de ce que t'es, de ce que t'arrives à faire, entoure-toi bien aussi, parce que ça, c'est important. Et juste, aime-toi, aime ton corps. C'est là-dedans, c'est dans ce squelette et dans cette apparence que tu vis, que tu vas accomplir tellement de choses. Donc ouais, go, va soulever des montagnes, vas-y. On est là, on est derrière toi, on va le faire avec toi, il n'y a pas de souci.
Je ne peux qu'être d'accord avec toi, c'est clairement les messages que j'essaie de transmettre au quotidien, mais je pense du coup effectivement que ce podcast va parler à plus d'une femme. Comme tu l'as si bien souligné, c'est l'endométriose dans ce podcast-là, mais ça peut totalement être quelqu'un qui a découvert qu'il avait un cancer du sein ou plein d'autres maladies affreuses, silencieuses et horribles, et voilà. Et donc du coup, ouais, je pense que tes conseils ils s'appliquent vraiment à n'importe qui, même à des personnes qui n'ont pas de maladie, mais tu sais, des fois qui ont des manques de motivation, je pense que ça peut vraiment leur parler. Donc bah, merci encore, et puis on se revoit bientôt sur les réseaux.
Bah oui, merci à toi.
Cet épisode est maintenant terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager au maximum avec des personnes qui pourraient en avoir besoin, qu'elles soient atteintes d'endométriose ou d'une autre maladie, ou bien tout simplement des personnes que vous avez envie de faire relativiser sur leur vie et leur état actuel. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux laurita.socaliente. Je vous ai tout mis dans les notes du podcast pour toutes les informations énumérées pendant le podcast. Et puis, comme toujours, si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre 5 petites étoiles sur iTunes, ça fait toujours plaisir. Et je prends toujours énormément de plaisir également à vous lire après les épisodes. À bientôt !